Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonsoir, bonsoir, les trois coups, on frappe les trois coups, le rideau se lève et voici la conspiration des planches sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur le 92.1 FM en région bruxelloise. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour cette petite demi-heure critique sur les arts de la scène à Bruxelles et avec moi en studio, Sophie et Elisabeth, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Et Catherine arrive tout bientôt, on est un petit peu à la bourre mais ça va. Le temps de vous parler quand même des quelques créations qu'on a envie de mettre en avant cette semaine. Un homme vaut 35 milliards, pardon, du côté du poche. On verra qui c'est dans quelques instants. On parlera de la couleur bleue qui est dansée du côté de la Balsamine. La cerisée de Tchekhov nous attendra au Théâtre Varia. On ne badinera pas avec l'amour non plus du Musset. Et c'est bien adapté pour un public ado. En tout cas, c'est un public scolaire qui est dessiné, mais c'est aussi pour le grand public, évidemment, d'aller redécouvrir ces classiques. Ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, on prend la direction du Bois de la Cambre et du célèbre théâtre de poche, voilà, qui confirme son engagement avec une pièce coup de poing et qui promet un enlèvement, paraît-il.
Oui, voilà. Alors, un homme qui valait 35 milliards, je vous donne tout de suite un indice. Cet homme ne fond pas dans le mital. Allez, allez. Voilà.
C'est on Lakshmi, est pas... paraît-il.
C'est
son
Lakshmi,
sinon.
C'est Lakshmi, mais oui, quand même. Vous vous souvenez bien, cet Indien qui avait fait des promesses mirabolantes, qui allait sauver la sidérurgie et tout ça, et qui n'a pas tout à fait tenu ses promesses. Eh bien, le voilà dans le caca. Parce qu'il est l'objet et non seulement d'un roman, mais aussi d'une pièce de théâtre percutante, rock'n'roll, comme ça faisait trop longtemps qu'on n'en avait pas vu. Voilà.
Alors, et c'est Monsieur Ancion, je crois,
C'est Monsieur Ancion à l'écriture, donc oui. C'est un roman Nicolas et le collectif Ancion, mensuel, trois comédiens, deux hommes et une femme, se sont emparés de ce roman, de son propos, de cet enlèvement de Lakshmi Mittal, parce que quand même... quand même, 35 milliards, c'est bien dans les poches, mais il en faut un peu pour les autres. Et puis, il nous présente ça sur la scène du poche, après l'avoir présenté, je pense, à de nombreuses reprises déjà à Liège.
À Liège, notamment.
Notamment à Liège, parce qu'effectivement, Kenafer à Litch. Hein, on est tout à fait dans du théâtre liégeois, mais ça fait du bien à Bruxelles. On a plaisir à les accueillir. Ils sont là, et ils ne sont pas venus tout seuls. Ils sont venus avec deux musiciens très, très rock'n'roll, et leur batterie, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et puis tout commence comme un concert. Et nous voilà partis, le rythme est là, les batteries, et hop, on est parti. Et puis tout d'un coup, on nous raconte que Lakshmi Mittal s'est fait enlever, etc. Et puis petite pause, et on revient un petit peu à l'origine de cette idée un peu farfelue d'enlever ce grand patron, ce grand capitaine d'industrie. Et là, on rencontre un des personnages du spectacle qui n'est autre qu'un loser. Eh oui, un artiste de surcroît, un plasticien, vous avez dit quoi ? Ben oui, un type qui fait rien, quoi, de ses journées, mais qui tout d'un coup voit un boulot. Et puis, ben, pour avoir un boulot, ben, il faut un peu jouer des coudes, il faut montrer patte blanche, il faut faire plaisir. Et là, il doit faire une œuvre magistrale. Alors, il a une idée, mais qu'elle est bonne. Et cette idée, c'est de prendre Lakshmi Mittal, non pas pour... user de violence à son égard, mais non, pour lui faire reproduire des œuvres d'art monumentales, des œuvres d'art qui ont marqué. Et alors, il y a l'urinoir de Duchamp qui arrive. Donc, l'idée, c'est simplement pour lui accorder de la valeur, puisque c'est un homme qui fait du fric avec un peu de tout, de le faire signer un urinoir. Et puis voilà. Et passe en revue, comme ça, toutes les idées très alcoolisées. On voit le frigo, les jupilères qui sortent et tout ça. Et
est-ce que on sent la provoque tout au long de cette pièce ?
On sent la provoque tout à fait. Alors bon, maintenant, c'est vrai que le roman date d'il y a quelques années déjà. C'est vrai qu'on n'est pas dans une actualité brûlante, incandescente, pour parler d'un haut fourneau.
Oui, mais la situation est encore fraîche.
Bien sûr, oui, tout à fait. Et cette provoque, elle est amenée là avec beaucoup de finesse, de second degré. Donc oui, elle est là tout le temps, elle est aussi bien dans la musique, mais le spectacle joue très bien sur les registres puisqu'on a le concert qui reprend. Par moment, les choses sont racontées très très rapidement. Comment est-ce qu'il se débrouille par exemple pour avoir un rendez-vous avec la chemise Mittal? Ben, c'est quand même pas simple, il faut d'abord avoir sa collaboratrice. Et donc on a tout ça, mais derrière le micro avec les guitares qui jouent, la musique derrière à fond la caisse, et donc tout se passe comme ça, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de tenues. Il y a une vidéo qui accompagne, qui nous amène un peu la sidérurgie à nous. On va vers ça.
Justement, comment est la scéno, en fait?
Ben, la scéno, elle est très simple parce que c'est vraiment une scéno de concert. On est au concert. Enfin, on est au concert, non, on n'est pas au concert. Mais il n'y a pas grand-chose de plus qu'une batterie et puis un panneau qui barre le fond, qui avance, qui monte, etc., sur lequel est projeté au-dessus le film sur la sidérurgie, ou simplement on est un peu dans un road movie, on va vers ça. Et puis après, ce panneau sera utilisé dans un deuxième ou même un troisième temps, puisqu'il y a trois étapes, pour projeter et pour nous montrer en image à ce moment-là l'enlèvement en tant que tel, avec évidemment une scène finale, puisqu'une des œuvres qui a été sélectionnée, donc il y avait l'urinoir, et puis alors il y a aussi un provocateur célèbre qui s'est laissé enfermer avec un coyote.
Oui.
Voilà, j'oublie toujours son nom, ne me le demandez pas.
On l'avait vu, il était évoqué dans un spectacle de Van de Caybus
également.
Absolument,
il était évoqué dans ce spectacle-là, il avait là sa couverture, etc. Tout ça est reproduit, on l'amène au beau pays des Wai, et là, il n'y a pas de coyote, mais il y a des sangliers. Donc on a des scènes comme ça de plus en plus cocasses. Mmh. Et puis à la fin, la dernière image du spectacle, finalement, était quand même une image assez forte, puisque une des œuvres sélectionnées, c'est celle de Spencer Tunick, qui est le monsieur qui fait des installations avec des personnes qui, en guise de protestation, ben, se déshabillent. On l'a vu se faire déshabiller des gens pour les glaciers, par exemple, etc. Et là, les ouvriers de la sidérurgie se déshabillent, et la chemise Mittal est au milieu d'eux. Et finalement, on a cette image de fragilité, finalement, et cet homme qui finalement, progressivement, dans l'image, disparaît. Et est là face à ces gens qui sont dans leur plus grande nudité. Donc on a vraiment toujours ce deuxième degré qui est toujours là. C'est quand même assez subtil. Puisqu'il y a ce passage par rapport à l'art aussi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça allie vraiment les deux discours. Un discours social assez fort et même aussi la question de l'art, puisque c'est quelqu'un, un artiste raté, on peut le dire, et qui va essayer de, en tout cas...
C'est déjà un artiste.
un artiste en manque de reconnaissance.
Voilà, mais ce qui est
particulier... Qui va copier d'autres.
Voilà, mais ce qui est particulier aussi dans ce spectacle, il y a aussi une tirade des « Je vous emmerde », comme ça, qui fait un peu penser à celle de Cyrano. Il y a un peu de ça. Et finalement, tout le monde en prend pour son grade. On sent très bien que tous les partis, de quelque couleur qu'ils soient, en prend sur son grade. Enfin, c'est vraiment une espèce de ménage comme ça, général, et de remise en question. Ce qui fait qu'au final, c'est un spectacle très, très plaisant, très vitaminé, qui est une manière, comme il y en a plein d'autres, de faire du théâtre engagé. On n'est pas dans le discours, dans la propagande, mais on est vraiment dans, j'ai envie de dire, une pochade quand même, aux poches. Ça s'impose, mais avec beaucoup de subtilité. Et aussi une interprétation impeccable des trois comédiens.
Sandrine Bergot, Quentin Allois et Baptiste Isaïa, c'est bien ça?
Isaïa notamment, à qui on doit la tirade de « Je vous emmerde », qui a quand même... qui tient quelque part de l'anthologie, disons-le, hein, parce que voilà, tout le monde est visé, que ce soit les artistes ou les autres. Voilà. Alors, il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a plus pour très longtemps. C'est jusqu'au 29.
Jusqu'à la fin de cette semaine.
Donc. Voilà, mais ne vous en privez pas parce que c'est franchement drôle et agréable et bien musclé.
www.poche.be pour l'homme qui valait 35 milliards du collectif mensuel d'après, je sens que ma voix baisse un petit peu, d'après le roman de Nicolas Ancion. Voilà, on poursuit donc, et là on va aller vers de la danse, oui. Toujours là évidemment.
À la Balsamine, et c'est aussi un spectacle très plaisant à regarder. On n'est pas obligé, pour les spectateurs qui n'ont pas envie de se casser la tête, de retrouver le propos, etc. C'est possible aussi de le regarder et de voir quelque chose de beau, un beau travail sur le corps. C'est un spectacle chorégraphié et dansé notamment par Elie Éléonore Valère Lachki.
Quoi ?
Pardon ?
C'est quoi ?
Ah, Bleu. Ah, je pensais qu'on avait dit, désolée. Donc, Bleu à la Balsamine. Voilà, donc c'est une chorégraphe qui a été formée chez Partz. On l'a notamment vue avec Michelin de Mai ou Wim van de Caybus, pour donner un peu une idée. Et elle a fait un très gros travail de recherche sur le corps. Donc ici, en fait, pour ce spectacle, elle s'est penchée sur une méthode de kinésithérapie qui s'appelle la méthode GDS. Qui est en fait une méthode des chaînes musculaires et articulaires. Donc, cette méthode intègre le fonctionnement du corps et le comportement psychologique. Et voilà, elle a utilisé cette méthode, elle a vraiment beaucoup travaillé dessus avant de se lancer dans le travail chorégraphique pour voir comment son psychologique va influencer le mouvement et des enchaînements de mouvement. Voilà, donc elle travaille avec trois autres danseurs, ils sont quatre sur scène, et chacun dans son style va donner carte blanche à son corps. Donc c'est vraiment la libre expression du corps, donc tout dans la physicalité, et voilà, laisser son corps s'exprimer et être, pour dire aussi la recherche d'équilibre intérieur qu'on peut parfois chercher. Voilà, donc il y a... Pardon ?
Le bleu dans tout ça ?
Le bleu dans tout ça. Alors, bon, d'après la chorégraphe, c'était juste une couleur qui revenait souvent dans ses images mentales. Et voilà, elle a cherché, elle a donné ce titre pour l'aspect infini, donc infinitude du ciel, infinité du ciel ou de l'océan, et la profondeur aussi. Voilà, c'était quelque
chose. On le voit sur scène ou pas ?
Il y a du bleu, c'est notamment dans les éclairages. Et puis, on peut aussi retrouver ça au niveau de la musique, si on pense au blues. Là, en fait, la musique a une place très, très importante dans ce spectacle. C'est principalement du jazz, mais aussi du blues.
Et, bleu, voilà. Voilà. Encore une
oui,
fois.
Oui, donc il y a une présence de cette couleur, tout à fait.
Tu parlais de différents styles des danseurs. Tu peux nous en dire plus là-dessus ?
En fait, chacun a donc... à une façon de s'exprimer différente. C'est vraiment l'expression du corps. Et donc, par exemple, la chorégraphe, donc Éléonore Lachki, part plutôt dans des grandes envolées. Elle utilise tout l'espace du plateau. Ce sont des mouvements très syncopés. Et on peut vraiment voir chaque partie du corps qui s'articule indépendamment des autres. Tandis que d'autres danseurs ont des mouvements très, très nerveux, qui sont presque des micro-mouvements. Et il y a un mouvement permanent. Et c'est ça l'importance de la musique. En fait, comme elle l'explique, elle a imposé à ses danseurs de travailler avec la technique du Mickey Mousing. Donc, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les films de Disney où il y a une synchronisation entre l'action et le mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pendant tout le spectacle. Quand la musique s'emballe, la trompette de jazz qui s'emballe, ben voilà, le mouvement est vraiment ample et voire exagéré sur scène. Et puis, enfin voilà, donc c'est vraiment, ça colle à la musique et chaque note est jouée. Donc ça a quand même une particularité. Voilà, et puis ce qu'on retrouve dans le propos, en fait, c'est les corps qui se cherchent. Donc, on part à la recherche de soi avec l'aide de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve réellement, et je trouve ça encore assez rare de retrouver le propos d'un spectacle de danse sur scène. Parfois, il y a un véritable décalage. Ici, ça se traduit réellement. Et il y a notamment un passage qui revient plusieurs fois, où trois des danseurs se font face dans un coin, et parce que l'espace est très construit aussi sur scène, ils se font face et ils se touchent en permanence, ils se touchent mutuellement, donc au niveau des bras. Et chaque mouvement, il change le mouvement en fonction du rythme de la musique. Donc c'est vraiment, ils battent la mesure en se touchant, c'est très chorégraphié, en tout cas cette partie-là. Et voilà, donc il y a vraiment une recherche de l'autre, une recherche de soi à travers l'autre. C'était tout
voilà,
à fait intéressant.
Une petite création donc danse, ça s'appelle Bleu et c'est à voir jusqu'au 27 novembre, jusqu'à ce jeudi soir. Côté de la Balsamine à 20h30, www.balsamine.be. Et on va s'écouter un extrait là maintenant, Sophie.
Oui.
Ce sera c'est le spectacle.
Je sais pas si tu l'as.
Je vais
un
dire ça tout de suite.
Un extrait du spectacle.
Un extrait qui s'intitule Unsquare Dance. Et on se retrouve juste après pour la suite des critiques de la conspiration des planches.
Thank you.
Unsquare Dance, un extrait musical du spectacle bleu à voir à la Balsamine dont on vous parlait en première partie de cette conspiration des planches. Et nous sommes de retour pour poursuivre un petit peu notre tour des spectacles de la semaine et direction le parc qui a déjà présenté son spectacle de fin d'année. Ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles et... C'est une histoire éternelle, Catherine.
Une histoire que beaucoup connaissent, en tout cas. On a tous vu au moins le dessin animé de Walt Disney ou le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Parce qu'au cinéma, évidemment, on a les moyens d'essayer d'atteindre le monde fantastique de Lewis Carroll. Mmh. Au théâtre, par contre, on se dit que c'est quand même une drôle d'idée de vouloir adapter Alice au Pays des Merveilles.
On avait déjà vu une adaptation cette saison.
À l'Atelier 210.
Oui, c'est clairement un mythe qui fascine le théâtre cette saison. C'est Ahmed Hayed qui avait tenté aussi une plongée dans le monde fantastique et bizarre de Lewis Carroll.
Qui est un auteur difficile.
Tout à fait. Alors, ce qui est plutôt réussi ici, c'est que on avance par petites touches surréalistes. Alors, des choses comme, par exemple, un travail de marionnette qui va évoquer la chute interminable d'Alice dans le terrier du lapin, ou qui va évoquer le fait qu'elle rapetisse à un moment donné à la taille d'un champignon, ou le fait qu'elle va pousser jusqu'à déborder avec ses jambes et ses pieds d'une maison. Le chat du Cheshire avec son sourire carnassier est évoqué par une comédienne qui simplement regarde à travers un miroir grossissant, une loupe,
une grosse loupe,
et tout à coup son sourire s'élargit comme ça. Ou la reine de cœur qui est incarnée par Thierry Janssen, le patibulaire Thierry Janssen, qui arrive avec une énorme robe qui a l'air d'avoir été taillée dans les rideaux de son château et qui surtout est toute raide et finit par tenir toute seule et qui évoque le pupitre du tribunal où on va juger Alice. Donc ce sont des petites touches comme ça qui sont plutôt malignes. Mmh. Après, malheureusement, ça manque encore beaucoup de rythme et ça manque de fluidité en partie parce que à l'adaptation, Thierry Janssen et Yasmina Douyeb ont voulu mélanger plusieurs histoires de Lewis Carroll. Donc on n'a pas seulement Alice au Pays des Merveilles, mais aussi Alice sous terre, de l'autre côté du miroir. Et en plus, on a rajouté à ça des éléments
biographiques
de la vie de Lewis Carroll, qui connaissait une vraie petite Alice à qui il a commencé à raconter ses histoires.
En effet. Mais je trouve quand même que dans cette pièce, on arrive à suivre l'histoire biographique. C'est vraiment Alice qui revient donc voir, c'est le début de la pièce, qui revient voir Lewis Carroll, puisqu'il s'était inspiré d'une vraie Alice, Alice Liddle, qui était la fille d'un pasteur, je crois, dans son voisinage, et qui revient voir Lewis Carroll, qui l'a mené un peu vers le rêve. Et c'est ça aussi toute la question, c'est de savoir le rêve, où peut-il nous emmener et où questionne-t-il notre identité? Parce que toute l'histoire et tout l'enjeu d'Alice au Pays des Merveilles, c'est le questionnement même de cette petite fille sur sa propre identité, elle qui rapetisse, qui grandit, dont le comportement n'est pas compris par tous les personnages qu'elle rencontre. Elle ne sait plus d'ailleurs quel comportement trouver. Et c'est ça qui est un peu mêlé. C'est vrai que ça peut perturber quand on s'attend à une histoire d'Alice basique, j'ai envie de dire. Mais ça reprend aussi, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que ça reprend des passages exclusivement du roman qu'on n'a pas pu voir dans les autres adaptations. Il y a l'histoire de la Duchesse, ça c'est dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est des épisodes assez importants aussi pour comprendre toute la folie et toute l'absurdité du monde de Lewis Carroll, qui était précurseur à l'époque. C'était déjà, il écrivait pour les enfants à l'époque, c'était pas courant et ça le mettait déjà en marge de la société littéraire. Et puis, il a écrit ce qu'on sait, donc tout un monde de folie et de questionnement. On parlait vraiment aussi de la consommation d'opiacés à l'époque sur
Lewis Carroll. Il écrivait pour les enfants, mais quand même, c'est un monde qui est très sombre.
Très sombre,
je trouve.
Oui. C'est moins sombre que ce qu'on avait vu avec Ahmed Hayed, quand même, je trouve.
Oui,
il y a beaucoup plus d'humour.
Mais je parle en fait de l'œuvre originale.
Oui,
moi, quand j'étais petite, ce n'est pas une œuvre comme Pinocchio. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que tous les personnages sont quand même très négatifs. Ils sont tous un petit peu narcissiques, agressifs. Égocentrique.
Il fallait confronter les enfants aux réalités de la vie, très facile.
Oui, mais c'est un spectacle qui se veut familial et je ne suis pas sûre que les enfants vont être émerveillés par ce monde finalement assez sombre.
Tu parlais des costumes, en effet, on voit encore une fois la foison dans le costume de la reine. Je trouve que c'est quand même un humour très simple, mais finalement qui fonctionne quand même bien. Je trouve que c'est un bon moment, même si c'est du grotesque, on fonctionne. Il y a même les couleurs de la Belgique, je crois, dans la robe de la Reine de Cœur.
Tout à fait.
Voilà. Et par contre, je trouvais qu'une des faiblesses aussi, c'était le décor qui est un peu faible. Le fond est noir complet et les arbres qui sortent de ce sol sont un peu... Je trouve que c'était un peu faible pour
c'est
soutenir...
Vrai, c'est un peu maigre, surtout qu'on sait que le Théâtre du Parc est capable de faire des choses incroyables avec le Tour du Monde en 80 jours, notamment là, on était vraiment, on partait dans un voyage hallucinant. Là, je suis d'accord que c'est un peu plat au niveau des décors.
Mais il y a quand même des passages intéressants, on disait, les passages avec la marionnette. Ça aussi, il y a un passage qui est assez dur quand la marionnette sort d'elle, carrément. On dit en famille, c'est vrai que ça peut perturber, en tout cas, un premier regard au théâtre. Voilà.
Et en même temps, c'est une métaphore d'Alice qui se cherche elle-même, finalement.
Évidemment, évidemment. Alors, ça s'appelle donc Alice au Pays des Merveilles. C'est une adaptation de Yasmina Douyeb de Thierry Janssen. On soulignera dans la distribution Sophie Lameau, Clément Thirion, Thierry Janssen, j'en oublie, Michel Carcan, Lara Hubinon et Françoise Oriane aussi, qui est pas mal du tout.
Qui donc, joue une chenille qui fume la pipe.
Oui, c'est très bien aussi, ce passage-là. C'est à voir sans discontinuer jusqu'au 20 décembre. Et puis, on le retrouvera pour la soirée du réveillon de Nouvel An, le 31 décembre, avec Gala. Évidemment. C'est au Théâtre Royal du Parc, www.theatreduparc.be. L'automne fut tchékovien à Bruxelles. Hein. On avait vu le Vania de Christophe Sermet par le rideau de Bruxelles qui part en tournée là actuellement. Et bien voilà, Thibaut Wenger qui s'inspire de La Cerisée, la dernière pièce de théâtre d'Anton Tchekhov. Il le présente en ce moment au Théâtre Varia. Il n'est pas étranger à Tchekhov puisqu'il avait adapté Le Platonov, la pièce d'adolescence de Tchekhov, la toute première. Et il va maintenant à l'autre extrémité chercher cette pièce paysage par excellence, qui nous parle des thèmes tchékoviens. Tu peux peut-être les rappeler, Catherine.
Oui, en fait, c'est marrant parce que c'est exactement la même intrigue quasiment que Oncle Vania, oui. Qu'on a vu il y a quelques semaines. Je sais que comparer n'est pas raison, mais voilà.
Sur les intrigues, du moins, on peut le faire.
L'intrigue est quasiment la même. C'est une propriétaire terrienne qui revient sur ses terres et qui se rend compte de l'état lamentable des finances de sa propriété, qui comporte notamment une grande cerisée. Son entourage va la convaincre qu'il faut vendre et le vendre notamment à un voisin ancien moudjik qui a fait fortune et qui est aujourd'hui capable de racheter cette propriété. C'est un monde qui change, c'est un monde qui s'éteint et un autre qui émerge. Et on est dans ce flottement-là, très très typique de Tchekhov finalement.
Théâtre de l'attente, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand on parle de Tchekhov. Et je crois que Thibaut Wenger a bien insisté là-dessus, en tout cas, parce que cette pièce
fait 2h20,
2h30, oui. Et on est un peu saisi par justement l'attente et le manque de rythme de cette pièce. Alors on se dit, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est pas voulu ? On a l'impression que parfois, il y a vraiment des faiblesses au niveau de la direction, du jeu, des acteurs. Il y a des très, très bons comédiens. Marcel Delval, je trouve, qui sort du lot parce qu'il lui fait le Léonie, donc l'oncle Gaëf, qui a un passé trouble, on ne connaît pas très bien, mais qui regrette aussi la vente de la cerisée. Mathieu Bénard fait Lopakine, qui est ce marchand qui propose, ancien moudjik, donc qui propose de lotir le terrain et de le revendre. Et il y a des seconds rôles aussi qui sont assez intéressants. Par contre, parfois, dans les moments de grande collégialité, on a l'impression qu'ils se cherchent. Il y a évidemment ce personnage de Lyubov, donc de cette femme qui revient dans sa cerisée. Elle erre complètement dans cette pièce. C'est Francine Landrin qui l'interprète. Et parfois, on est un peu perdu et abasourdi par ce rythme qui tombe, notamment dans les deux derniers actes. Il y a l'acte de la fête, le jour de la vente de la cerisée, qui tombe un petit peu à l'eau. Et puis cette attente à la fin, quand l'acte du départ, qui est mis comme un point d'orgue, en fait. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, Catherine.
Ben oui, surtout qu'avec Oncle Vania, on était dans quelque chose de complètement rock'n'roll. Ici, on est dans quelque chose de complètement classique. Alors évidemment, on s'ennuie beaucoup plus. Et on avait envie que ça dépoussière un petit peu plus ce Tchekhov qu'on voit quand même beaucoup. Alors quand on s'attaque à Tchekhov, il faut avoir quelque chose d'un peu neuf à dire.
Oui, parce que dans la scénographie, il a voulu épurer, mais il garde quand même des éléments très concrets qui sont, et justement, les changements de décor traînent encore un petit peu, je trouve, aussi, et allongent inutilement la pièce. C'est dommage parce qu'on sent que Thibaut Wenger, on connaît son talent, on sait qu'il y a, mais on a l'impression qu'il n'a pas su saisir cette pièce pour nous la faire parler aujourd'hui, alors qu'il avait une bonne distribution et bon, une belle pièce aussi à manier. Bon, voilà, c'est un peu là une petite déception quand même que cette cerisée de Thibaut Wenger qui est présentée en ce moment du côté du Théâtre Varia jusqu'à la fin de cette semaine.
On peut peut-être dire un tout petit mot sur On ne badine pas,
oui,
avec
alors
l'amour.
Un tout petit mot, parce qu'il nous reste moins d'une minute.
Ben oui, dire que c'est une pièce qui parle d'amour aux ados. C'est l'histoire de personnages qui ont eux-mêmes 18 ans dans la pièce. Il y en a un qui veut croire à l'amour, une autre qui a du mal à croire dans la fidélité des hommes. C'est un triangle amoureux qui est suivi par un débat avec les adolescents. Et pour les classes qui le souhaitent, elles peuvent jouer une des scènes de la pièce avec leurs propres mots et la jouer en mai au Théâtre Varia. Je trouve que c'est une belle initiative de Benoît Verhaert pour faire aimer le théâtre aux ados. Moi, j'ai assisté à un débat et franchement, j'ai été soufflée parce qu'on a toujours l'image des ados un peu trash, nihilistes, m'en foutistes. Et là, ils y croient et ça fait du bien.
Il y a une tranche d'âge pour les ados parce que
je crois que c'est à partir de 17-18 ans.
Ah oui, l'écran,
29...
Oui, les jeunes.
C'est à voir jusqu'au 29 novembre également au Théâtre Varia, www.varia.be. Merci d'avoir été avec nous dans la Conspiration des planches. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres critiques et la rediffusion de cette émission demain, jeudi, à 13h30. Belle semaine à vous. Constelación.